Chapitre 7. Un paquebot postal à destination de l'Extrême-Orient était arrivé l'après-midi, et la grande salle à manger était aux trois quarts pleine de gens, avec des 100 livres de billets de tour du monde en poche. Il y avait des couples de jeunes mariés, trop familiers déjà, et un peu là l'un de l'autre dès la moitié du voyage. Il y avait des groupes importants ou modestes, et des voyageurs solitaires qui dînaient solennellement ou faisaient une bombance bruyante. Tous gens qui pensaient, péroraient, plaisantaient ou grommelaient comme ils le faisaient chez eux, et dont l'intelligence était aussi ouverte à des impressions nouvelles que les mâles déposaient dans leur chambre. De ce jour, ils porteraient, comme leur bagage, une estampille certifiant qu'ils avaient passé à tel ou tel endroit. Ils chériraient cette distinction et garderaient sur leurs valises les étiquettes gommées, évidences documentaires et seules traces durables des acquisitions de leur voyage. Les serviteurs, au visage sombre, glissaient sans bruit sur le vaste plancher ciré. Un rire de jeune fille, aussi innocent et aussi vide que son esprit, fusait de temps en temps, ou, dans une brusque accalmie des bruits de vaisselle, on distinguait une phrase débitée sur un ton languissant et affecté par le bel esprit de la bande qui, pour le bénéfice d'une table ricanante, brodait sur quelque thème absurde d'un récent scandale de bord. Deux vieilles filles nomades en robe d'apparat consultaient la carte avec acrimonie, en échangeant des murmures de leurs lèvres fanées. Étranges visages de bois, elles faisaient l'effet de deux épouvantails somptueux. Quelques gorgées de vin ouvrirent le cœur de Jim et délièrent sa langue. Je m'aperçus qu'il avait bon appétit. Il paraissait avoir enterré quelque part le souvenir de l'épisode inaugural de nos relations. C'était apparemment un sujet dont il ne devait plus être question ici-bas. Et tout le temps, je voyais devant moi ces yeux bleus d'enfant qui regardaient droit dans les miens, ce jeune visage, ces épaules puissantes, ce front large et bronzé avec une ligne blanche sous la racine des cheveux blonds bouclés, cet extérieur qui avait dès l'abord attiré toute ma sympathie. Cet aspect de franchise, ce sourire candide, cette gravité juvénile. Il sortait du bon moule, c'était bien l'un des nôtres. Il parlait doucement, avec une sorte d'abandon tranquille, et avec un calme qui pouvait être la marque d'une contrainte virile aussi bien que d'une parfaite impudence, d'un endurcissement, d'une inconscience colossale ou d'une monstrueuse duplicité. Comment le savoir ? À nous entendre, on aurait pu croire que nous parlions d'un tiers, d'un match de football ou du temps de l'année précédente. Mon esprit se perdait sur une mer de conjectures, jusqu'au moment où le tour de la conversation me permit, sans apparence de curiosité blessante, d'avancer que, somme toute, cette enquête avait dû constituer pour lui une épreuve assez rude. Il lança son bras par-dessus la nappe, et saisissant ma main à côté de mon assiette, il me regarda fixement. Je tressaillis. « Cela doit être affreusement dur, » balbutiai-je, tout confus de cette explosion d'émotions muettes. « C'est l'enfer, » laissa-t-il échapper d'une voix rauque. Son geste et ses paroles firent redresser les visages inquiets à deux touristes élégants penchés à une table voisine sur leur entremets glacé. Je me levai et nous passâmes sur la terrasse pour prendre notre café en fumant des cigares. Sur de petites tables octogonales, des bougies brûlaient dans des globes de verre. Des bouquets de plantes à feuilles raides isolaient par petits groupes de confortables fauteuils d'osier. Entre les doubles colonnes, dont la longue rangée de fûts rougeâtres luisait sous l'éclat sorti des hautes fenêtres, la nuit scintillante et sombre faisait l'effet d'une tapisserie splendide. Les feux de position des navires tremblotaient au loin, comme des étoiles déclinantes, et autour de la rade, les collines s'arrondissaient, en grosses masses noires, comme d'immobiles nuées d'orage. « Je n'ai pas pu me sauver, » commença Jim. « Le patron l'a fait, c'est son affaire. » »« Mais moi, je n'ai pas pu. Et je n'ai pas voulu non plus. » Ils se sont tous arrangés à se défiler, d'une façon ou de l'autre. Mais moi, cela ne me convenait pas. Je l'écoutais avec une attention passionnée. Je voulais savoir. Et maintenant encore, je ne sais pas. J'en suis réduit à des conjectures. Jim se montrait à la même minute plein de confiance et réticent, comme si la conviction de sa pleine innocence eût refoulé la vérité qui luttait en lui, à chaque minute, pour s'exprimer. Il commença par me dire, avec l'accent d'un homme qui reconnaîtrait son incapacité à sauter un mur de 20 pieds, qu'il ne pourrait plus jamais retourner au pays. Et cette affirmation me rappela les paroles de Brierley sur ce vieux pasteur d'Essex qui paraissait avoir une prédilection pour son grand marin de fils. Je ne saurais vous dire si Jim avait conscience de cette prédilection, mais le ton sur lequel il parlait de « mon père » était fait pour me donner l'impression que le bon vieux doyen de campagne était bien l'homme le plus remarquable qui eût été depuis l'origine du monde, tourmenté par les soucis d'une nombreuse famille. Jim n'exprimait pas cette conviction en propres termes, mais toutes ses paroles trahissaient le désir que l'on ne s'y trompât point. C'était puéril et charmant, et cette évocation ajoutait aux autres éléments de l'histoire une poignante impression d'existence très lointaine. « Il a dû tout lire maintenant dans les journaux, » disait Jim. « Je ne pourrai jamais me retrouver en face du pauvre vieux. » Je n'osais pas lever les yeux avant de l'avoir entendu ajouter « Je ne pourrai pas m'expliquer. Il ne comprendrait pas. » Alors je le regardais. Il fumait d'un air rêveur, mais il s'arracha bientôt à ses réflexions pour se remettre à parler. Il me fit part de sa crainte d'être confondu avec les complices de, disons, de son crime. Il ne faisait pas partie de leur bande. Il était d'une espèce toute différente. Je ne faisais aucun signe de désapprobation. Je n'avais nulle intention, au nom de la sèche vérité, de lui refuser la moindre parcelle de grâce rédemptrice qui pût être invoquée en sa faveur. Je ne savais pas jusqu'à quel point il ajoutait foi à ses propres paroles, ni même à quoi il prétendait, s'il prétendait à quelque chose. Et je soupçonne qu'il n'en savait rien lui-même. Je crois que nul homme ne prend pleine conscience des ruses ingénieuses auxquelles il a recours pour échapper à l'ombre hideuse de la connaissance de sa propre personne. Je ne soufflais pas mot en l'entendant demander ce qu'il pourrait bien faire quand cette stupide enquête serait terminée. Il partageait apparemment l'opinion méprisante de Brierley pour cette procédure légale. Il ne saurait de quel côté se tourner, avouait-il, en pensant manifestement à voix haute plutôt qu'il ne me parlait. Son brevet retiré, sa carrière brisée, sans argent pour s'éloigner, il ne trouverait nul ouvrage où qu'il voulût s'adresser. En Angleterre, il pourrait peut-être dénicher un emploi, mais il lui faudrait pour cela avoir recours au sien, et il ne voulait pas songer à le faire. Il ne voyait guère qu'un poste de simple matelot, ou peut-être de quartier-maître sur un vapeur quelconque. Oui, il pourrait bien faire un quartier-maître. « Croyez-vous ? » demandai-je, impitoyablement. Il bondit et alla s'appuyer à la balustrade de pierre pour regarder dans la nuit. Il revint presque aussitôt, tournant vers moi son jeune visage contracté encore par la douleur d'une émotion contenue. Il avait bien compris que je ne mettais pas en doute son aptitude à tenir la barre de navire. D'une voix légèrement tremblante, il me demanda pourquoi je disais cela. Je lui avais témoigné une bonté sans bornes. Je n'avais même pas ri quand, ici il se mit à bredouiller, cette bourde, vous savez, quand je me suis montré pareil à Anne Battée. Je l'interrompis pour dire avec une certaine chaleur que pareille erreur ne comportait à mon sens rien de risible. Il s'assit et but délibérément son café, vidant la petite tasse jusqu'à la dernière goutte. Cela ne veut pas dire que j'admette, pour un moment, avoir mérité pareille épithète, affirma-t-il d'un ton net. « Vraiment, fis-je. Non, répliqua-t-il avec une conviction paisible. Savez-vous ce que vous auriez fait, vous? Le savez-vous? Et vous, vous ne vous considérez pas... » Il fit un mouvement comme pour avaler quelque chose. « Vous ne vous considérez pas comme une sale bête ?» Sur quoi, ma parole, il me regarda d'un œil interrogateur. C'était une question, paraît-il, une question bona fide. Il n'attendit pourtant pas ma réponse. Sans me laisser le temps de me remettre, il poursuivit, les yeux droits devant lui, comme s'il avait lu les mots écrits sur le manteau de la nuit. Le tout, c'est d'être prêt. Et je ne l'étais pas à ce moment-là. Je ne veux pas invoquer d'excuses, mais j'aimerais expliquer les choses. J'aimerais que quelqu'un comprît, quelqu'un, une personne au moins. Vous, pourquoi pas vous? C'était une scène solennelle, et un peu ridicule aussi, comme le sont toujours ces combats livrés par un homme pour arracher au feu l'idéal moral auquel il prétend se conformer, et cette notion précieuse d'une convention qui n'est qu'une des règles du jeu, sans plus, mais ne garde pas moins une efficacité terrible pour tout ce qu'elle possède de puissance sur les instincts naturels, et par les pénalités redoutables que comporte son abandon. Il commença tranquillement son récit. À bord du vapeur de la ligne Dale qui avait recueilli les quatre naufragés, noyés dans l'éclat discret d'un coucher de soleil, on les avait, dès le deuxième jour, regardés avec une certaine méfiance. Le gros capitaine avait fait son récit, et les autres l'avaient laissé parler en silence. On avait commencé par accepter leur histoire. On ne fait pas subir d'interrogatoire à de pauvres naufragés que l'on a eu la bonne fortune d'arracher, sinon à une mort cruelle, au moins à de cruelles souffrances. Par la suite, lorsqu'ils eurent le temps de réfléchir, les officiers de l'Avondale durent être frappés par ce qu'il y avait de louche dans l'aventure. Mais naturellement, ils gardèrent leurs doutes pour eux-mêmes. Ils avaient recueilli le capitaine, le second et deux mécaniciens du Patna, perdus en mer, et en gens bien élevés. Ils n'en demandaient pas plus long. Je n'interrogeai pas Jim sur ses impressions pendant les 10 jours qu'il avait passés à bord. À l'entendre me parler de ce moment de son histoire, je pouvais inférer qu'il restait à demi étourdi par la découverte qu'il venait de faire, la découverte du fond de son être, et qu'il se donnait une grande peine pour expliquer une telle vision au seul homme capable d'en apprécier l'énormité redoutable. Comprenez bien qu'il ne s'efforçait nullement d'en atténuer l'importance. J'en suis parfaitement convaincu, et c'est en cela même que consistait sa distinction. Quant à ses sensations en descendant à terre et en apprenant la singulière issue de l'aventure à laquelle il avait pris une si pitoyable part, il ne m'en souffla pas mot, et elles ne sont pas faciles à imaginer. Je me demande s'il sentit le sol manquer sous lui. Je me demande, mais en tout cas, il sut bien vite reprendre pied. Il passa au foyer des marins une quinzaine dans la tente, et comme il y avait là 6 ou 7 autres hébergés, je pus entendre un peu parler de lui. En dehors de ses manquements possibles, ses compagnons inclinaient avec indifférence à le considérer comme une brute insociable. Il avait passé 3 jours, vautré sur une chaise longue de la véranda, et il n'en sortait qu'aux heures des repas, ou le soir très tard, pour errer en solitaire sur les quais, détaché de tout ce qui l'entourait, fantôme irrésolu et silencieux, sans maison à hanter. Je ne crois pas avoir adressé 3 paroles à âmes qui vivent pendant toute cette période, disait-il, ce qui me contristait fort pour lui. Et il ajoutait aussitôt, un de ces types-là n'aurait pas manqué de faire une réflexion que j'étais décidé à ne pas tolérer, et je ne voulais pas de vacarme. Non, pas à ce moment-là. J'étais trop... Je ne me sentais pas le cœur. Alors, en définitive, la cloison a tenu le coup, interrompis-je rondement. « Oui, murmura-t-il, elle a tenu, et pourtant je vous jure que je l'avais sentie bomber sous ma main. » Les efforts que peuvent soutenir de vieilles ferrailles à certains moments sont stupéfiants, commentai-je. Renversé sur son siège, les jambes étendues toutes droites et les bras ballants, il fit à diverses reprises un petit signe de tête. Vous ne sauriez imaginer plus triste spectacle. Soudain, il redressa le front, se releva et se frappa la cuisse. Ah, l'occasion que j'ai manquée, mon Dieu, l'occasion que j'ai manquée, lança-t-il. Et dans ce dernier manqué passait l'accent d'un cri arraché par la douleur. Il restait à nouveau silencieux, avec un regard fixe et lointain, un regard qui trahissait un élan farouche vers cette distinction manquée. Ses narines, un instant dilatées, aspirait le parfum de l'occasion perdue. Ne croyez pas que je fusse surpris ou scandalisé. Ce se réfère à plus d'un titre montre d'injustice à mon égard. Ah, c'était un bel imaginatif. Il fallait qu'il se montrât à nu, qu'il s'abandonnât tout entier. Au fond du regard qu'il plongeait dans la nuit, je distinguais tout l'être intérieur qu'il jetait éperdument vers un royaume imaginaire de folles aspirations et d'héroïsme inouï. Il ne songeait même plus à regretter ce qu'il avait perdu, tant il était totalement et éperdument absorbé par le mirage de ce qu'il avait failli gagner. Il était très loin de moi, qui le regardait à 3 pieds de distance. Il s'enfonçait, un peu plus avant à chaque minute, dans un monde impossible d'exploits romanesques, et il finit par en atteindre le centre. Un air étrange de béatitude envahit ses traits. Ses yeux étincelèrent à la lueur de la bougie placée entre nous. Il eut un vrai sourire. Il était arrivé au cœur même du pays prodigieux. C'était un sourire extatique que l'on ne verra jamais sur vos visages, mes chers amis, non plus que sur le mien. Je le ramenai sur cette terre en lui disant « Si vous étiez resté sur le bateau, voulez-vous dire ?» Il tourna vers moi des yeux brusquement chavirés, douloureux, et un visage ahuri, effaré de souffrance, comme si je l'avais fait tomber d'une étoile. Ni vous ni moi n'aurons jamais l'occasion de revoir pareille expression chez un homme. Il frissonna longuement, comme si un doigt glacé l'eût touché au cœur. Enfin, il soupira. Je ne me sentais pas disposé à l'attendrissement. Il devenait impatientant avec ses indiscrétions contradictoires. « Dommage que vous ne l'ayez pas su avant, lançai-je, avec les intentions les plus malveillantes. » Mais le trait perfide retomba sans force, mourant pour ainsi dire à ses pieds, comme une flèche perdue, et il ne songea pas plus à le ramasser que s'il ne s'en était pas aperçu. Et presque aussitôt, il s'écria, en s'allongeant à l'aise, « Le diable m'emporte, je vous dis qu'elle bombait !» Je promenais ma lampe dans l'entrepont le long de l'angle de fer lorsque je vis une plaque de rouille, large comme la main, se détacher d'elle-même de la tôle. Il se passa la main sur le front. La plaque a remué et sauté comme une chose vivante pendant que je regardais. « Cela vous a fait une vilaine impression, je suppose, » fis-je négligemment. « Croyez-vous, me répondit-il, que je pensais à ma propre vie, avec 160 passagers endormis derrière moi, rien que dans cette partie de l'entrepont, et plus encore à l'arrière, plus sur le pont, qui dormait sans se douter de rien, 3 fois plus que les chaloupes ne pouvaient en contenir, même si l'on eût eu le temps de les mettre à la mer. Je m'attendais à voir la plaque de fer s'ouvrir sous mes yeux et l'eau se ruer pour les submerger tous à leur place. Que pouvais-je faire, dites-le-moi. » Je me représentais sans peine l'obscurité caverneuse de cet antre surpeuplé, la lueur du globe sur un petit coin de la cloison dont l'autre face supportait tout le poids de l'océan, et le bruit de la respiration des dormeurs inconscients. Je voyais Jim, les yeux rivés sur la paroi de fer, atterré par la chute de l'écaille de rouille, écrasé par la conscience d'une mort imminente. C'était, d'après ses dires, la seconde fois qu'il était envoyé à l'avant par son capitaine. Le drôle, selon moi, voulait surtout l'éloigner de la passerelle. Il me disait que son premier mouvement avait été de pousser un cri et de faire bondir tous ses gens, de les jeter du sommeil dans la terreur. Mais il éprouva un sentiment si accablant de son impuissance qu'il ne put proférer un son. C'est là sans doute ce qu'on veut exprimer quand on parle de la langue qui se colle au palais. « Trop sèche, me disait-il avec concision, pour expliquer cette sensation. » Il remonta donc sans mot dire sur le pont par la première écoutille. Une manche à air disposée là vint le toucher par hasard, et il se souvenait que le contact léger de la toile sur son visage avait failli le faire tomber de l'échelle. Il avouait que ses genoux tremblaient fort, tandis qu'il se tenait à l'avant du pont et regardait une nouvelle foule de dormeurs. Les machines étaient arrêtées, et la vapeur fusait avec un grondement sourd qui faisait vibrer toute la nuit comme une corde de basse. Le navire tremblait de bout en bout. Jim voyait ça et là une tête se soulever au-dessus d'une natte. Une forme vague et endormie se dressait sur son séant, écoutait un instant, puis se laissait retomber dans un amas confus de caisses, de treuils à vapeur, de ventilateurs. Dans leur ignorance des choses de la mer, ces gens-là ne pouvaient pas comprendre la signification d'un bruit anormal. Le bateau de fer, les hommes à visage blanc, tous les bruits, tous les spectacles du bord paraissaient également étranges à cette pieuse et ignorante multitude, et inspiraient une confiance égale à leur définitive incompréhension. Jim s'avisa que c'était là une circonstance heureuse, mais dont la pensée était simplement terrible. Souvenez-vous qu'il s'attendait, comme tout autre marin l'eût fait à sa place, à voir le navire sombrer d'une seconde à l'autre. Les tôles bombées et rongées de rouille qui maintenaient l'océan devaient fatalement céder tout à coup, comme une digue minée, en livrant passage à un flot brutal et destructeur. Il restait immobile et regardait tous ses corps allongés, condamné conscient de son sort qui contemplait la compagnie silencieuse des morts. Morts, ils l'étaient, rien ne pouvait les sauver. Il y avait des chaloupes pour la moitié d'entre eux, peut-être, mais on n'aurait pas le temps de les mettre à l'eau. Pas le temps, pas le temps. À quoi bon ouvrir la bouche, remuer un pied ou une main? Avant d'avoir poussé trois cris, d'avoir fait trois pas, ils se débattraient dans une mer blanchie par les efforts désespérés d'êtres humains, toute sonore de cris de détresse et d'appels au secours. Il n'y avait pas de secours possible. Il se représentait parfaitement ce qui allait arriver. Il assistait déjà à la scène, de l'écoutille où il se trouvait, la lampe à la main. Il en imaginait le moindre et atroce détail. Je crois qu'il la revoyait encore à l'heure où il me racontait ces choses, qu'il ne pouvait pas raconter au tribunal. Je sentais aussi clairement que je vous vois là que je ne pouvais rien faire, et cette pensée semblait enlever toute vie à mes membres. Je me disais qu'autant valait rester où j'étais et attendre. Je ne croyais pas avoir beaucoup de secondes devant moi. Tout à coup, le grondement de la vapeur se tut. Le bruit avait été affolant, mais le silence aussitôt se fit oppressant et plus affreux encore. Il me semblait que j'allais étouffer. Il m'affirmait n'avoir pas songé à sa propre existence. La seule pensée qui se dessinait pour s'évanouir et se reformer aussitôt dans sa tête, c'était 800 passagers et 7 canots. 800 passagers et 7 canots. Il y avait une voix qui me parlait tout haut dans la tête, m'expliqua-t-il, d'un air un peu égaré. 800 passagers, 7 canots, et pas de temps. Songez un peu. Il se penchait vers moi par-dessus la petite table, et je m'efforçais d'éviter son regard fixe. Croyez-vous que j'ai eu peur de la mort? Me demanda-t-il d'une voix basse et farouche. Il fit retomber sur la table sa main ouverte. Les tasses à café tremblèrent. Je suis prêt à jurer que je n'avais pas peur. Ah, grand Dieu, non. Il se redressa, croisa les bras et laissa retomber son menton sur sa poitrine. Des bruits assourdis de vaisselle heurtée nous arrivaient par les hautes fenêtres. Il y eut des éclats de voix et plusieurs convives sortirent sur la galerie dans un état de joyeuse humeur. Ils échangeaient de joviales réminiscences sur les ânes du Caire. Un jeune homme pâle, à mine inquiète, qui marchait doucement sur de longues jambes, essuyait, à propos de ses achats au bazar, les brocarts d'un globe-trotteur rubicon à l'imposante carrure. « Non, vraiment, vous croyez que je me suis laissé refaire à ce point ?» demandait-il, ingénument, avec un grand sérieux. La compagnie s'éloigna, en renversant des sièges au passage. Des allumettes flambèrent, éclairant une seconde des visages sans ombre d'expression, et faisant luire la surface glacée des plastrons de chemise. Le bourdonnement des conversations animées par l'ardeur des agapes me paraissait futile et infiniment lointain. Des hommes de l'équipage dormaient sur le panneau numéro 1, à portée de ma main, reprit Jim. On montait le quart à la nègre sur ce navire-là. Tout l'équipage dormait, et l'on n'avait recours, en cas de nécessité, qu'au quartier-maître désigné et aux hommes de garde. Jim avait envie de prendre à l'épaule le lascar le plus proche, mais il n'en fit rien. Une force semblait retenir son bras à son côté. Il n'avait pas peur, ah non, mais il ne pouvait pas faire le geste, voilà tout. Il n'avait pas peur de la mort, peut-être, mais je vais vous le dire, il avait peur de ce qui allait survenir. Sa maudite imagination avait évoqué toutes les horreurs de la panique, la ruée furieuse, les cris pitoyables, les barques chavirées, tous les incidents atroces que peut suggérer l'idée d'un désastre en mer. Il se serait volontiers résigné à la mort, mais je suppose qu'il voulait mourir sans terreur supplémentaire, tranquillement, dans une sorte de rêve paisible. Une certaine aptitude à la mort n'est pas chose si rare, mais ce qui est rare, c'est de rencontrer des hommes dont le cœur, doublé d'une impénétrable armure de volonté, soit prêt à mener jusqu'au bout une bataille perdue. Le besoin de paix se fait plus fort à mesure que l'espoir s'envole et finit par l'emporter sur la soif même de vie. Qui de nous n'a pas éprouvé cela, ou connu au moins lui-même quelque chose d'une telle impression, la lassitude extrême des sentiments, l'inanité de l'effort, l'infini désir de repos? Ceux qui luttent contre des forces brutales connaissent bien ce désir. Les naufragés entassés dans des chaloupes, les voyageurs perdus dans le désert, tous les hommes qui se battent contre les puissances aveugles de la nature ou la brutalité stupide des foules. Chapitre 8. Combien de temps il se tint sans bouger près de l'écoutille, s'attendant à sentir d'un moment à l'autre le navire s'enfoncer sous ses pieds et à entendre la ruée du flot qui le prendrait par derrière et l'emporterait comme fétu de paille, je ne saurais le dire. Pas bien longtemps, sans doute. 2 minutes, peut-être. Deux hommes qu'il ne pouvait distinguer se mirent à échanger des propos indolents, et il perçut, il n'aurait su dire où, un singulier bruit de piétinement. Mais par-dessus ces sons furtifs, il avait conscience du calme terrible qui annonce les catastrophes, du silence effroyable qui précède les grands tumultes. Quand tout à coup l'idée lui traversa l'esprit qu'il aurait peut-être le temps de couper les garants des saisines pour mettre toutes les embarcations à flot quand le navire sombrerait. Le Patna avait une longue passerelle où se trouvaient rangées toutes les chaloupes, 4 d'un côté et 3 de l'autre. La plus petite était accrochée à bâbord et presque par le travers de l'appareil à gouverner. Jim m'affirmait, avec un évident désir d'être cru, qu'il avait toujours veillé à tenir les embarcations parées pour un service immédiat. Il connaissait son métier, et je suis persuadé qu'en ce qui concerne ce genre de devoir, il faisait un lieutenant très convenable. « J'ai toujours voulu être prêt aux pires éventualités, » commença-t-il, en me regardant avec inquiétude. J'approuvais d'un signe de tête la solidité du principe, tout en détournant les yeux devant le manque subtil de solidité de l'homme. Il s'élança donc en trébuchant. Il lui fallait enjamber des membres, éviter des têtes. Il sentit tout à coup une main saisir le bas de sa veste, tandis qu'une voix angoissée s'élevait sous son coude. La lumière de la lampe qu'il portait dans la main droite tomba sur un visage levé, dont les yeux étaient aussi suppliants que la voix. Jim connaissait assez la langue des pèlerins pour comprendre le mot « Oh !» prononcé avec insistance, à diverses reprises, sur un ton de prière et presque de désespoir. Il voulut se dégager d'une secousse, mais il sentit des bras accrochés à sa jambe. « Le malheureux se cramponnait à moi comme un homme qui se noie, » m'expliquait-il avec émotion. « L'eau, l'eau, de quelle eau voulait-il parler ? Que savait-il ? » Je lui ordonnais, aussi posément que je pus, de me lâcher. Mais il me retenait toujours. Le temps pressait. D'autres dormeurs commençaient à s'agiter. Il me fallait du temps, le temps de mettre les canots à la mer. Il m'avait saisi la main et je le sentais tout prêt à pousser des cris. Je m'avisais qu'un seul cri pouvait suffire à susciter une panique, et de toute la force de mon bras libre, je lui assénais en pleine figure un coup avec ma lampe. Le verre tinta, la flamme s'éteignit, mais le choc lui fit lâcher prise et je m'enfuis. Je voulais arriver au canot, je voulais arriver au canot. L'homme bondit derrière moi, je me retournai vers lui. Il ne voulait pas se tenir tranquille, il allait crier. Je l'étranglais à moitié avant de comprendre ce qu'il voulait. C'est de l'eau qu'il demandait, de l'eau à boire. On les rationnait ferme, vous savez, et il emmenait avec lui un jeune garçon que j'avais plus d'une fois remarqué. L'enfant était malade et avait soif. M'apercevant au passage, il m'avait supplié de lui donner un peu d'eau, voilà tout. Nous étions sous la passerelle, dans l'ombre. Il s'obstinait à me tenir les poignets. Impossible de m'en dépêtrer. Je sautai dans ma cabine, saisis ma carafe et la lui mis dans la main. Il s'éclipsa. Je ne m'étais pas encore aperçu que j'avais moi-même une soif intense. Jim s'appuya sur le coude, la main devant les yeux. J'éprouvais, tout le long de l'échine, une étrange impression. Il y avait quelque chose de particulier dans tout cela. Les doigts qui cachaient le front du jeune homme tremblaient légèrement et il rompit bientôt le silence. Ce sont des aventures qui ne surviennent qu'une fois dans une vie d'homme. Et, ah bien, quand j'arrivai enfin sur la passerelle, les misérables étaient en train de dégager l'un des canots de support de chantier. Un canot. J'escaladai précipitamment l'échelle, lorsqu'un coup violent me frappa l'épaule en passant à un doigt de ma tête. Je n'en fus pas arrêté cependant, et le chef mécanicien, que l'on avait fini par arracher à sa couchette, releva son inspecte. Je ne sais pourquoi, rien ne m'étonnait. Tout cela me semblait naturel et horrible, horrible. Je sautai sur le malheureux maniaque, l'enlevai du pont comme un petit enfant, et l'entendis supplier dans mes bras « Laissez, laissez, je vous prenais pour un de ces nègres. » Je le lançai loin de moi, il glissa sur la passerelle, et butant dans les jambes du second mécanicien, il fit choir le petit homme. Le capitaine, qui s'acharnait sur le canot, se retourna et vint vers moi, la tête baissée et grondant comme une bête sauvage. Je ne bougeais pas plus qu'une pierre. Je restais ferme comme cela. Et il tapait légèrement du doigt le mur près de sa chaise. C'était comme si j'avais 20 fois entendu, vu, éprouvé tout cela. Je n'avais pas peur d'eux. Je retirai le poing en arrière, et le patron s'arrêta tout court, en grommelant « Ah, c'est vous ! Donnez-nous un coup de main, vite !» Voilà ce qu'il trouva à me dire, « Vite !» Comme si personne n'avait pu faire assez vite. « Est-ce que vous n'allez pas faire quelque chose ? » demandai-je. « Si, filez ! » ricana-t-il par-dessus mon épaule. Je ne crois pas avoir compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Les deux autres s'étaient relevés et précipités sur le canot. Ils piétinaient, soufflaient, poussaient, juraient, maudissaient, canot et navire, s'injuriaient l'un l'autre, et moi avec eux. Tout cela à voix contenue. Je ne bougeais pas, je ne parlais pas, j'observais la bande du navire qui restait immobile, comme s'il eût été sur des poulies, en cale sèche. Seulement, il était comme ceci. Jim étendait la main, la paume en dessous, et le bout des doigts inclinés vers la terre. « Comme ceci, » répéta-t-il. Je voyais devant moi, clair comme un son de cloche, la ligne d'horizon par-dessus l'étrave. Je voyais bien loin la mer sombre et luisante et calme, calme comme un étang, d'une immobilité de mort, plus immobile que mer ne l'avait jamais été, d'une immobilité que je ne pouvais pas regarder. Avez-vous jamais vu un bateau avec l'avant à demi enfoncé et retenu sur l'eau par une plaque de vieille ferraille trop rouillée pour se laisser raccorer ? La Corée, ah oui, j'y avais bien songé. J'avais songé à tout ce que l'on peut envisager au monde. Mais comment accorer une cloison en 5 minutes, ou même en 50, si vous voulez? Où aurais-je trouvé les hommes pour descendre dans la cale? Et le bois, le bois! Auriez-vous eu le courage de donner le premier coup de maillet, si vous aviez vu cette cloison? Ne dites pas oui. Vous ne l'avez pas vue. Personne n'aurait osé. Le diable m'emporte. Pour tenter une pareille entreprise, il faut se croire une chance sur 1000. Au moins une ombre de chance. Et vous n'y auriez pas cru. Personne n'y aurait cru. Vous me considérez comme un chien, pour être resté là. Mais qu'auriez-vous fait, vous? Oui, quoi? Vous ne pourriez pas le dire. Personne ne pourrait le dire. Il faut avoir le temps de se retourner. Qu'auriez-vous demandé que je fisse? Quel avantage auriez-vous vu à affoler de terreur une foule que je ne pouvais pas sauver à moi tout seul, que personne ne pouvait sauver? Tenez, aussi vrai que je suis assis sur cette chaise, devant vous. » Il s'arrêtait à chaque instant pour une inspiration brève et jetait sur mon visage des coups d'œil rapides, comme si, dans son angoisse, il eût voulu observer l'effet de ses paroles. Il ne me parlait pas, il parlait seulement devant moi. Il discutait avec un être invisible, un détestable associé, un individu inséparable de lui-même, un autre possesseur de son âme. Un litige de ce genre dépasse la compétence d'un tribunal d'enquête. C'était une discussion subtile et redoutable sur la véritable essence de la vie, qui n'avait pas besoin de juge. Ce qu'il lui fallait, c'était un allié, un aide, un complice moral. Je me rendais compte que je courais le risque de me laisser circonvenir, de me laisser aveugler et prendre au piège, d'être amené de force, pour ainsi dire, à jouer un rôle précis dans une discussion sans conclusion possible, pour celui qui voulait peser sans parti pris tous les éléments de la cause et prêter une oreille impartiale au parti en présence, à l'homme honorable qui avait ses droits et à l'individu douteux qui formulait ses exigences. À vous qui n'avez pas connu Jim et qui n'entendez ces paroles que de ma bouche, je ne puis expliquer un tel conflit de sentiments. Il me semblait que l'on me faisait comprendre l'inconcevable, et je ne connais aucun malaise comparable à celui d'une sensation pareille. J'étais amené à rechercher ce qui se cache de convention sous toute vérité, ce qu'il y a d'essentielle vérité dans tout mensonge. Ce garçon-là s'adressait à toutes les faces de l'esprit, au côté perpétuellement tourné vers la lumière du jour, et à cette autre face de notre être qui se cache sournoisement dans une ombre éternelle, comme l'hémisphère inconnu de la lune, et ne s'éclaire parfois sur ses bords que d'une sinistre lumière cendrée. Il influait sur moi, je dois le reconnaître. Le fait en soi était obscur, insignifiant, tout ce que vous voudrez. Il ne s'agissait que d'un jeune homme perdu, un entre tant de millions d'autres. Seulement, c'était l'un de nous. L'incident était aussi dénué d'importance que l'inondation d'une fourmilière. Et pourtant, le mystère de son attitude m'en imposait, comme s'il eût été au premier rang de ses pairs, comme si l'obscure vérité de sa conduite avait eu assez de poids pour affecter l'opinion que l'humanité pouvait concevoir d'elle-même. Marlowe s'arrêta pour redonner de la vie à son cigare expirant, parut un instant oublier toute l'histoire, puis reprit brusquement. « C'était ma faute, à coup sûr. On n'a vraiment pas le droit de se laisser ainsi captiver. C'est une de mes faiblesses. La sienne était d'une autre espèce. Ma faiblesse à moi consiste à ne pas avoir un œil assez critique pour les conditions accidentelles et extérieures, à ne pas savoir distinguer la hotte du chiffonnier ou le beau linge de son voisin. De son voisin, je dis bien. J'ai rencontré tant d'hommes, poursuivit Marlowe, avec un accent passager de tristesse. Rencontré de façon un peu intime, si vous voulez, comme ce garçon-là, par exemple. Et chaque fois, c'est l'être humain seul que j'ai su regarder en eux. Vertu démocratique et maudite de vision, qui est peut-être préférable à une cécité totale, mais ne m'a valu aucun avantage, je vous en réponds. Les gens aiment que l'on fasse cas de leur beau linge. Moi, je n'ai jamais pu m'emballer pour ce genre de choses. Oh, c'est un défaut, sans aucun doute. Et un beau soir arrive, avec un tas de bons hommes trop indolents pour jouer au whist. Alors l'histoire... Il se tut à nouveau, attendant peut-être une réflexion encourageante, mais personne ne souffla mot. Seul le maître de maison murmura, comme s'il se fût à regret acquitté d'un devoir, « Vous êtes si subtil, Marlowe. »« Subtil, moi ?» fit Marlowe à voix basse. « Oh non, mais lui, il l'était. » Et quoi que je puisse faire pour assurer le succès de mon histoire, je laisserai échapper des nuances innombrables, trop fines, trop insaisissables pour être exprimées en mots incolores. Et puis il compliquait encore les choses par son extrême simplicité, ce pauvre diable, simple entre tous les pauvres diables. Par Jupiter, il était stupéfiant. Il m'affirmait tranquillement qu'il n'aurait peur de rien affronter, aussi vrai que je le voyais devant mes yeux. Et il le croyait certainement. Je vous dis que c'était d'une innocence fabuleuse et que c'était énorme, énorme. Je le surveillais du coin de l'œil, comme si je l'eusse soupçonné de vouloir proprement me monter le cou. Il en était bien sûr. En face, notez-le bien. Il était à la hauteur de tous les événements. Depuis qu'il avait été haut comme cela, et tout petit gosse, il s'était préparé à toutes les épreuves qui peuvent vous assaillir sur la terre et sur l'eau. Il était fier de cette espèce de prévoyance. Il avait dans son imagination évoqué les périls et inventé les parades. Il s'était attendu au pire et s'y était toujours montré supérieur. Il avait dû mener une existence bien exaltée. Vous figurez-vous cela, une succession d'aventures, un rayonnement de gloire, une suite de triomphes, et ce sentiment profond d'une sagesse qui embellissait chacune des heures de sa vie intérieure. Il s'abandonnait, ses yeux brillaient, et à chacune de ses paroles, mon cœur, mieux pénétré par la lumière de sa folie, se faisait plus lourd dans ma poitrine. Je n'avais nulle envie de rire, et craignant de sourire pourtant, je prenais un masque figé. Il donnait des signes d'irritation. « C'est toujours l'inattendu qui survient, » déclarai-je d'un ton propitiatoire. Mon incompréhension m'attira un « peu » de mépris. Sans doute voulait-il exprimer que l'inattendu n'avait pas de prise sur lui. Il ne fallait pas moins, dans son état de préparation parfaite, que l'inconcevable pour le dérouter. Il avait été pris au dépourvu, et il mâchait entre ses dents une malédiction contre les eaux et le firmament, contre le navire, contre les hommes. Tout l'avait trahi. Il avait été réduit, par surprise, à cette espèce de résignation hautaine qui l'empêchait de bouger le petit doigt, tandis que les autres, avec une claire perception de l'imminente nécessité, se bousculaient et s'acharnaient désespérément autour de leur canot. Il y avait, au dernier moment, quelque chose qui ne marchait pas. Ils avaient trouvé le moyen, dans leur affolement, de coincer le pêne à coulisse d'un des supports du premier canot, et ce qui leur restait de lucidité s'épuisait sur cet incident fatal. Ce devait être un beau spectacle, sur ce bateau immobile et flottant en paix dans le silence d'un monde endormi, que l'activité fiévreuse de ces misérables, qui s'agitaient, qui luttaient contre le temps, pour libérer leur embarcation, qui se traînaient à quatre pattes et se relevaient avec désespoir, qui tiraient, poussaient, se lançaient des paroles haineuses, prêts à tuer, prêts à pleurer, retenus seulement de se prendre l'un l'autre à la gorge par la terreur de la mort silencieuse qu'ils sentaient derrière eux comme un garde-chiourme inflexible et glacial. Oh oui, ce devait être un joli spectacle. Jim avait tout vu et pouvait en parler avec amertume et mépris. Il avait saisi les moindres détails de la scène, grâce à quelque sixième sens, sans doute, car il me jura être resté à l'écart, sans jeter un coup d'œil sur les hommes ou sur le canot, sans un coup d'œil. Et je le crois. Je pense qu'il était trop préoccupé, en effet, par la bande du navire, par cette menace brusquement surgie au milieu de la plus parfaite sécurité, trop fasciné par l'épée suspendue à un cheveu au-dessus de son crâne d'imaginatif. Rien ne bougeait devant ses yeux. Rien ne l'empêchait de se représenter l'ascension instantanée de la sombre ligne d'horizon, la montée soudaine de la vaste plaine marine, la ruée brusque et silencieuse, le choc brutal, l'étreinte de l'abîme, la lutte sans espoir, l'extinction de la voûte étoilée, close à jamais sur sa tête comme une voûte de tombeau, la révolte de sa jeunesse, la fin noire. Il se figurait tout cela par Jupiter. Qui ne se le serait figuré? Souvenez-vous, au surplus, qu'Artis achevait dans ce domaine particulier. Ce garçon-là était un pauvre diable, doué d'une étrange clairvoyance sur l'avenir. Les terreurs suscitées par son imagination l'avaient pétrifié et glacé, de la plante des pieds à la nuque, mais il y avait dans sa tête une danse échevelée de visions, un tourbillon de pensées muettes, aveugles et boiteuses, comme une ronde d'atroces éclopées. Ne vous ai-je pas dit qu'il se confessait à moi comme si j'avais eu le pouvoir de lier et de délier? Il creusait loin, tout au fond de son cœur, dans l'espoir d'une absolution qui ne lui eût servi de rien. Son cas était de ceux qu'aucun mensonge solennel ne saurait pallier, auquel nul homme ne peut porter remède, un de ces cas en face desquels le Créateur lui-même semble abandonner le pécheur à ses propres ressources. Il se tenait à tribord de la passerelle, aussi loin que possible de ces âmes penchées sur le canot, et qui s'acharnaient à leur besogne avec une agitation de forcenés et des précautions de conspirateurs. Les deux malais n'avaient pas lâché la barre. Figurez-vous les acteurs de ce drame de la mer, de cet épisode unique, Dieu merci, les quatre hommes éperdus d'efforts farouches et furtifs, et les trois autres qui les regardaient dans une immobilité absolue, devant les tentes qui recouvraient l'ignorance profonde de centaines d'êtres humains, endormis avec leurs fatigues, leurs rêves et leurs espoirs, retenus par une invisible main sur le bord du néant. Qu'ils fussent bien au bord de l'abîme, cela ne fait pas de doute pour moi, étant donné l'état du navire. Aucune avarie ne pouvait être plus fatale que la sienne. Ces misérables, autour de leur embarcation, avaient toute raison d'être égarés par la terreur. Franchement, si j'avais été là, je n'aurais pas donné un liard rouge des chances du navire de surnager d'un bout à l'autre de chacune des secondes successives. Et pourtant, il flottait. Ces pèlerins endormis étaient destinés à poursuivre leur pèlerinage jusqu'à l'amertume d'une autre fin. On eût dit que l'omnipotence dont ils imploraient la merci avait besoin pour quelque temps encore de leur humble témoignage sur cette terre, et avait abaissé les yeux sur l'océan avec un geste de défense « Je ne veux pas ». Leur survivance me troublait comme un événement prodigieusement inexplicable, si je ne savais ce qu'il peut y avoir de résistance dans de vieilles ferrailles, de résistance analogue à celle de certaines carcasses humaines, ça et là rencontrées, qui ne sont plus qu'une ombre et qui supportent encore tout le poids de la vie. Ce n'est pas, à mon sens, la moindre merveille de ces 20 dernières minutes que l'attitude des deux timoniers. Il faisait partie de la bande bigarrée d'indigènes amenés d'Aden pour témoigner à l'enquête. L'un d'eux, très jeune, luttait contre une intense timidité, et son visage glabre, jaunâtre et jovial le faisait paraître plus jeune encore qu'il n'était. Je me souviens parfaitement que Brierley lui fit demander par l'interprète ce qu'il avait pensé au moment de l'accident. L'interprète se retourna vers la cour après un bref colloque et d'un air important, « Il dit qu'il n'a rien pensé, » répondit-il. L'autre, avec ses yeux clignotants et soumis, avec son mouchoir de coton bleu terni par de nombreux lavages et habilement noué sur une toison de mèche grise, avait un visage creusé de plis durs et une peau brune que le réseau des rides faisait paraître plus sombre. Il avait eu conscience de quelque malheur tombé sur le navire, mais il n'avait pas reçu d'ordre. Il ne s'en souvenait pas, au moins. Pourquoi aurait-il lâché la barre? Sur des questions plus précises, il jeta en arrière ses maigres épaules et affirma n'avoir jamais imaginé que les Blancs pussent avoir quitté le navire par peur de la mort. Il ne le croyait pas encore. Il pouvait avoir eu des raisons secrètes. Il remuait son vieux menton d'un air entendu. Ah, des raisons secrètes. Il était homme d'expérience, et il voulait faire comprendre à ce Tuan-là, et se tourner vers Brierly qui ne levait pas la tête, qu'il avait acquis bien des connaissances en servant nombre d'années des Blancs sur mer. Et tout à coup, avec une agitation fébrile, il déversa sur notre attention haletante un flot de noms étranges, des noms de capitaines disparus, des noms aux consonances familières ou déformés de bateaux oubliés, comme si la main du temps se fût appesantie sur eux depuis des siècles. On finit par le faire taire, et le silence retomba sur le tribunal, un silence qui resta absolu pendant une minute au moins, avant de se résoudre en un murmure profond. Cet épisode fit sensation au second jour des débats et secoua tout l'auditoire, tout le monde, sauf Jim, qui, assis d'un air morne au bout du premier banc, ne levait pas les yeux sur ce témoin étrange et terrible, qui semblait obéir à quelque mystérieux système de défense. Les deux Lascars restaient donc à la barre de ce bateau qui ne gouvernait plus, et la mort les y aurait trouvés si telle avait été leur destinée. Les Blancs ne leur accordaient pas un regard. Ils avaient probablement oublié leur existence, et Jim, à coup sûr, ne s'en souvenait plus. Il se rappelait seulement son impuissance à faire quoi que ce fût, maintenant qu'il était seul. Il n'y avait rien à faire qu'à disparaître avec le navire. À quoi bon faire du bruit pour une chose si simple? À quoi bon? Il attendait debout, sans un mot, raidi dans une sorte d'attitude de discrétion héroïque. Le chef mécanicien courut à lui à pas feutrés et le tira par la manche. « Venez nous aider, au nom du ciel, venez nous aider !» Il retourna au canot sur la pointe des pieds, mais revint tout de suite le tirailler, suppliant et sacrant à la fois. « Je crois qu'il m'aurait baisé les mains, » disait Jim d'un air farouche. Et un instant après, il se mit à écumer et à me jurer au visage. « Si j'avais le temps, je serais heureux de vous briser le crâne !» Je le repoussai. Il me saisit tout à coup la nuque. Malédiction. Je frappais sans regarder. « Alors, vous ne voulez pas sauver votre vie, maudit lâche » sanglotait-il. « Lâche ! Il m'appelait maudit lâche ! Ha ha ! Il m'appelait... » Il s'était renversé en arrière, tout convulsé de rire. De ma vie, je n'ai rien entendu de plus amer que ce rire-là. C'était comme un vent desséchant qui tombait sur la bonne humeur des amateurs de bourricots, de pyramides, de bazars et de tout le reste. Dans la pénombre de la longue galerie, les voix se turent. Les taches pâles des visages se tournèrent toutes ensemble de notre côté, et le silence se fit si profond que le tintement clair d'une petite cuillère tombant sur la mosaïque de la véranda l'emplit d'un bruit minuscule et argentin. « Ne riez donc pas comme cela avec tous ces gens aux écoutes, » protestai-je. « Ce n'est pas gentil pour eux, vous savez. » Il ne parut pas m'avoir entendu tout d'abord, mais il fixa un instant dans le vide un regard qui passait sur moi pour contempler le fond d'une vision atroce, et murmura d'un ton insouciant « Bah, ils vont me croire ivre !» Après quoi l'on aurait pu penser, à le regarder, qu'il ne dirait plus un mot. Mais baste, il ne pouvait pas plus s'empêcher de parler, maintenant qu'il n'eût pu, par la seule puissance de sa volonté, s'empêcher de vivre.